Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
De Sainte-Anne-d'Auray à Saint-Jacques-de-Compostelle, Hervé de Lantivy invite les lecteurs de son ouvrage « Une prothèse vers Compostelle » à l'accompagner sur son chemin de foi, découverte de ce pèlerin meurtri dans sa chair, dont le chemin est une route de l'espérance. Hervé de Lantivy, bonjour.
Bonjour.
En 2021, vous avez parcouru 1920 km en 97 jours entre Sainte-Anne-d'Auray et Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce défi, vous vous l'êtes lancé en 2018, juste avant de vous faire amputer de la jambe gauche, vous disant intérieurement « si je marche à nouveau, ou du moins si je remarche correctement, je partirai seul à Saint-Jacques-de-Compostelle ». Que vouliez-vous vivre à travers ce qui pouvait quand même passer pour un défi sportif ?
Alors... Je dirais défi sportif, c'est un grand mot, parce que le pèlerin n'est pas là
pour faire... Pour une performance.
Pour une performance, pour faire un défi. Le pèlerin doit être sage, et ça je l'ai appris à mes dépens il y a encore 3 semaines, quand j'étais à marcher entre le Puy-du-Houblier et Aix-en-Provence, où j'ai gravi la montagne de Sainte-Victoire. Et j'ai eu peut-être la mauvaise idée de le faire par le haut.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire par le mont du Pic des Mouches, qui est à 1000 mètres d'altitude, pour rejoindre la Croix de Provence, qui était donc à l'opposé. Et en fait, là, je me suis fait très, très peur.
Parce que c'était très pentu ?
Ah ben c'est très pentu et c'est pas des sentiers, c'est que de la roche. Par moments, j'étais obligé d'escalader les falaises à l'aide de chaînes qui étaient piquées
déjà positionnées.
Sur les roches. Et là, je me suis dit, t'es un pèlerin, t'es pas un alpiniste ou un randonneur. Et du reste, à un moment, j'ai trébuché, je suis tombé et c'est un gros arbuste, hein, une grosse bruyère qui m'a retenu. Sinon, je tombais... 900 mètres plus bas, quoi. Mmh. Donc, et là, je me suis aperçu, en fait, que je me suis mis en danger. Mais j'aurais pu mettre en danger la vie des autres, c'est-à-dire les secouristes qui auraient été obligés de me venir, me récupérer.
Oui, vous secourir.
Donc là, je me suis dit que tu dois rester un pèlerin et il faut rester sage dans ces... dans ces moments de marche. Et ce qui ne veut pas dire non plus de marcher, de créer une certaine performance. Surtout avec le handicap que j'ai.
Donc je précise aux auditeurs que vous avez donc une jambe de bois.
De prouver que un amputé peut être presque pareil qu'une personne valide.
Mmh. Donc pas un défi sportif, est-ce que c'était pour autant un défi spirituel, Hervé de Lantivy ?
Ça c'est un défi spirituel, parce que après ça dépend du pèlerin. Moi je suis...
Mais
donc,
pour vous ?
Voilà, donc mon cas, je suis catholique, pratiquant, et le fait de se retrouver seul, ça c'est un défi envers Dieu. Parce que quand on marche, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Ou pour... Ne pas réfléchir, ça c'est... Mais je pense beaucoup à Dieu et puis à Marie aussi. J'aime beaucoup Marie, parce que c'est quand même la mère du Christ. Hein. Et je commence toujours ma marche en récitant... je dirais pas le chapelet en entier, parce que...
Une dizaine.
Je fais une dizaine, et puis dans la journée, je me mets à faire mon chapelet en entier. Mais le matin, je commence toujours par penser à Marie, et ce qui me donne une force pour marcher dans la journée.
Mmh. Puisque nous parlions de la prière, et cette prière que vous avez déroulée et que vous avez dit tout au long de ce chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce que vous avez développé une complicité une forme de complicité avec Saint-Jacques, l'apôtre ?
Ben oui, parce que Saint-Jacques, c'est quand même le but de ce pèlerinage. Il ne faut pas confondre le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle comme une randonnée.
Eh oui.
C'est tout à fait différent. Ce genre de marche, c'est très atypique. Hein. Il est très rare qu'une personne parte sans aucune raison. Et quelle que soit sa raison. Ça, il faut respecter les raisons
De chacun.
De chacun. Et surtout, on n'a pas le droit de juger. Un pèlerin ne peut pas juger une autre personne. Donc, moi, ma raison, c'était la première raison, bien sûr, le vœu que j'ai fait sur cette table d'opération qui m'est arrivé, je ne sais pas comment, ni pourquoi, ça, je... j'ai fait ce vœu et quelque part peut-être et certainement aussi pour me prouver que je pouvais être capable et surtout après cette amputation je me sentais pas comme un handicapé dans mon esprit je le refusais donc ce départ vers Saint-Jacques de Compostelle m'a beaucoup aidé. M'a donné une force incroyable et la solitude que j'ai pu avoir m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'ai pu penser à moi, à ma vie, bien sûr, à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Et par contre, les questions que je me posais, j'avais personne pour répondre.
Eh oui. Oui, vous étiez seul.
J'étais tout seul. En plus, quand je suis parti en 2021, je suis parti pendant le confinement. Donc,
il y avait d'autant moins de pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques.
Le premier pèlerin que j'ai rencontré, c'était dans les Landes. Ça faisait déjà un mois et demi que j'étais parti.
Oui, heureusement, vous avez eu des étapes quand même. Vous pouviez vous arrêter chez des personnes et notamment des amis ou des membres de la famille. Voilà, donc ça vous faisait quand même... ou des accueillants, ça vous faisait un peu de compagnie. Vous racontez dans votre ouvrage ce petit clin d'œil à Saint-Jacques. Vous constatez que vous êtes sur le chemin de Saint-Jean-d'Angély. Alors que Tonnet-Bouton se situe 8 km derrière moi, je vous cite. Hein. Malgré mon erreur, je reste très zen et je m'étonne moi-même de mon calme. Alors qu'en ordinaire, quand je me trompe d'itinéraire en voiture, je hurle et me mets à accélérer pour essayer de rattraper le retard perdu. C'est sûrement l'un des bienfaits du chemin et j'en remercie Saint-Jacques.
Ouais. Et ça, c'est assez incroyable parce que... J'ai mis beaucoup de temps à m'habituer au chemin.
Parce que vous a façonné.
Il y a les doutes. Mais en fait, j'ai compris une chose. Il faut savoir respecter le chemin.
Qu'est-ce que ça veut dire, respecter le chemin ?
Pardon ?
Qu'est-ce que ça veut dire, respecter le chemin ?
Eh bien, respecter le chemin... En fait, si on respecte le chemin, on se respecte soi-même. Mais pour se respecter soi-même, il faut s'aimer.
Oui, ça c'est un grand travail.
Et pour s'aimer, eh bien forcément...
Il faut accepter ses blessures.
Voilà. Et quand j'ai compris ce mot, je dirais respect, surtout ce mot aimer, tous les doutes sont libérés naturellement. Et en fait, c'est surtout le chemin qui nous dicte. C'est pas le contraire. Et ça, pour moi, c'était en fait une résurrection. Et grâce à ce respect et à cet amour du chemin, eh bien, j'ai pu aller jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle.
Avant de passer en Espagne, vous faites une étape à Lourdes parce que ça vous permet d'attendre la réouverture des frontières. Vous avez parlé de ce confinement. C'est dans un sanctuaire désert que vous pénétrez. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Lourdes comme ça. Quel souvenir gardez-vous de cette étape mariale ?
Je n'ai pas compris.
Quel souvenir gardez-vous de cette étape mariale quand vous vous êtes arrêté à Lourdes ?
Alors, quand je suis arrivé à Lourdes... Ça n'a pas été, je dirais, un très bon souvenir parce que tout simplement, le sanctuaire était complètement vide.
Eh oui.
Et ça, c'était assez glauque, on va dire. Surtout dans la ville, tous les magasins donc, étaient fermés, il y avait des rideaux métalliques. les offices à la grotte, s'il y avait peut-être 30 personnes. Par contre, j'avais le sanctuaire pour moi tout seul.
Et oui, puis vous qui disiez, Hervé de Lantivic, vous aviez pris la main de la Sainte Vierge pendant tout ce chemin. Finalement, vous aviez la Sainte Vierge devant la grotte de Massabielle, rien que pour vous.
Eh bien voilà, exactement. Et ça, ça a été vraiment le bienfait, je dirais, de ces 48 heures où je suis passé à Lourdes. Voilà, ça, j'avais la chance de profiter de ces moments sans avoir toute cette population qui est normalement donc à Lourdes.
Oui, et puis tous ces commerces qui peuvent polluer quand même la démarche du pèlerin.
Qui polluent beaucoup les pèlerins. Quoi.
Et oui. Pour continuer sur ce volet spirituel, vous témoignez à plusieurs reprises de coups de pouce inopinés, de rencontres bienvenues, et vous les attribuez à la Providence. Qu'est-elle pour vous ?
Ben, la providence, c'est un élément ou une personne qui arrive à point nommé. Et où, on ne s'attend pas. Et ça, j'ai plein d'exemples. Il y a encore, là, sur mon pèlerinage actuel, une fois, j'ai très faim et puis je passe devant une boutique. La personne, le commerçant s'arrête et me donne du pain, de la nourriture. Une fois, les restaurateurs qui m'ont offert le petit déjeuner. Une fois, je suis arrivé à une messe, donc c'était un dimanche. Et à la sortie, une personne est venue et m'a offert le déjeuner.
Oui.
Voilà, donc j'ai passé le déjeuner, c'était en Italie. J'ai passé le déjeuner avec toute la famille. En plus, c'était l'anniversaire de son mari. Donc, il y avait les cousins, les cousines.
C'était la fête.
Voilà, c'était la fête. Et là, j'ai passé un moment extraordinaire. Et ça, c'est vraiment la providence.
Et vous mettez qui derrière ce mot providence ?
C'est Dieu. C'est un signe de Dieu. Mm-hmm. Ça, c'est certain. C'est pas le hasard. Les pèlerins utilisent beaucoup le mot magique.
Ah oui.
Ça, c'est un terme que j'aime pas du tout, parce que magique, ça me fait penser un peu à la sorcellerie, ou quelque chose de truc. Que la providence, c'est quelque chose qui arrive. Je dirais, c'est pas naturellement, mais.
Le dessein de Dieu.
Exactement. C'est et c'est vraiment un moment où on a besoin d'un réconfort, ou. On a faim. Moi, j'ai eu beaucoup là. Sur mon dernier le pèlerinage que je fais, je mange pas à ma faim. Ça, c'est.
Parce que vous ne transportez pas non plus dans votre sac à dos de provisions, oui, pour vous alléger aussi.
Voilà. Ouais, ça fait 3 mois que je suis parti. J'ai perdu 11 kilos. Donc ça veut dire que je mange pas tous les jours à ma faim. Ouais. Le soir, si, parce que bon, il n'y a pas de problème. Mais le midi, c'est assez compliqué. Et cette providence fait parfois que on me donne à manger. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire.
Et c'est vrai que votre livre, Une prothèse vers Compostelle, regorge d'exemples de personnes qui vous donnent qui un repas, qui des fruits, des rafraîchissements. Il y a même un propriétaire des lieux qui un jour vous lance « Je suis la providence du chemin. Tout ce qui est à moi est à toi. Mange ce que tu veux. »
Voilà, ça c'était en Espagne. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Ah oui.
Et j'avais rien à manger.
Donc voilà, vraiment une sollicitude de Dieu, puisque vous parlez, vous mettez un mot sur cette providence, un nom en tout cas. Vous avez parlé aussi de cette prière du chapelet, et puis vous avez une prière le matin. Quelle est-elle ?
Ah ben, la prière du matin, déjà, je remercie Dieu de m'accorder suffisamment de force pour débuter ma journée et de finir mon étape. Je pense jamais à l'étape du lendemain ou de. Chaque jour suffit à sa peine. Et le soir, je fais exactement la même chose pour le remercier de m'avoir conduit à mon étape du jour.
Et ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà mis en place avant de partir sur le chemin de Saint-Jacques.
Oui. Alors j'ai mis du temps. J'ai mis au bout d'un mois. Mais là, sur mon départ de Rome, ça a été fait très rapide, c'est-à-dire le jour même.
Oui. Oui, donc là, précisons qu'effectivement, vous êtes de passage à Toulouse parce que vous êtes sur un autre chemin.
Voilà.
qui s'appelle, c'est la Via.
Alors, donc là, je suis parti de Rome.
Oui,
donc,
vous êtes parti de Rome.
Voilà, j'ai pris la voie de la Francigena, mais voilà, à l'envers. Et puis après, j'ai pris la voie de la Via della Costa, donc, qui part de Sarzana, qui rejoint Gênes et Gênes-Menton. Et de Menton, ça s'appelle la voie Aurelia, qui rejoint en fait la voie d'Arles.
D'accord.
Voilà. Et là, maintenant, je suis donc sur la voie d'Arles et je suis arrivé à Toulouse, bien fatigué. Au bout, ça fait bientôt 3 mois, puisque je suis parti le 3 avril. Et là, je dois être à peu près à 1700 km. Donc là, j'arrive à la moitié de mon pèlerinage.
De votre pèlerinage, voilà. Et le but, c'est d'arriver aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Voilà.
Voilà. Vous aviez un petit peu peur d'être seul. On en a parlé au début de cet entretien, Hervé de Lantivy. Vous dites que la solitude vous a fait du bien, mais à côté de ça, elle peut faire peur, la solitude. Comment l'avez-vous gérée?
Oui, alors ça, c'est les doutes que j'avais au début avant de partir. Et après aussi, mais avant de partir, quoi, c'est quoi, on va dire une semaine avant. Je doutais en fait de pouvoir déjà arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est surtout, je ne savais pas si j'allais pouvoir faire déjà la première étape. Donc, mais en fait, la force que j'ai eue, je me suis dit, en fait, c'est grâce à cette amputation que j'ose partir.
Sans elle, je
ne serais pas parti. Mmh. Ça, j'en suis persuadé. Mmh. Donc ça m'a donné
une
conviction pour partir. Et après, sur le chemin, j'ai eu beaucoup de doutes quand même sur les 15 jours qui ont suivi mon pèlerinage. Déjà par les blessures, parce que le gros problème d'un amputé avec l'emboîture... avec la transpiration à chaleur, on a des blessures sur le moignon et c'est pas agréable. Mmh. Et par moments, j'ai eu beaucoup de doutes et même à un moment, je me suis dit que je vais être obligé de stopper parce que j'ai eu une blessure assez embêtante. Mais en fait, c'est grâce à la persévérance. Et puis, il y a deux éléments tout bêtes, mais c'est mes deux béquilles.
Alors, on va parler de ces deux béquilles parce que vous leur avez donné un prénom.
Voilà. Et ça, c'était, c'était sur le halage de Nantes-à-Brest. Et il faisait assez chaud, j'étais épuisé. Parce que bon, c'est rien de passionnant de marcher le long d'un halage. Et j'ai observé mes deux béquilles et puis j'ai dit, tiens, si je leur donnais un prénom. Donc la première, c'est la béquille de gauche, j'ai l'appelée Aude, qui est le prénom de mon épouse, qui m'a toujours suivi dans mes années de galère. Et l'autre béquille, je l'ai appelé Philippe, c'est un de mes beaux-frères qui a subi beaucoup d'opérations, etc. Et on s'est toujours suivis tous les deux durant toute notre vie en commun.
Donc en cas de difficulté, en cas de doute, vous appeliez le secours de Aude et Philippe. Voilà.
Et ces deux bâtons métalliques, en fait, se sont transformés en confidents. Donc le matin, je lève toujours mes béquilles en l'air et puis j'ai dit, allez, Aude et Philippe,
donnez-moi
la force de marcher. Et puis dans la journée, je leur parle et quand ça ne va pas, ils disent, bon allez, vous êtes là et donnez-moi cette force que j'ai besoin. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et grâce à eux...
Vous y êtes parvenu.
J'y suis.
Et vous êtes dans le deuxième pèlerinage. Vous dites de votre épouse, Aude, quelle est votre force, votre oxygène, votre roue de secours. C'est un beau témoignage quand même. Après, combien d'années de mariage?
Ça va faire bientôt 35 ans.
Voilà.
Le mois prochain.
C'est un beau témoignage.
Voilà. Ouais. Bah, on a toujours été très fusionnels, Aude et moi. Et les gens se téléphonent tous les jours.
Ah oui.
Oui. Même
vous avez un petit rituel.
À la maison, c'est un petit rituel. Et là, sur le pèlerinage, on s'appelle deux fois par jour. Je l'appelle souvent le matin, avant qu'elle parte au travail. où souvent elle est dans la voiture, et le soir pour faire le compte-rendu. Et c'est étonnant parce que... c'est étonnant, non, en fait. On a beaucoup de choses à se dire.
Alors qu'on pourrait se dire, bon, vous marchez.
Voilà, oui. Mmh. Voilà. Donc moi, je raconte ma journée, et Aude raconte sa journée, les enfants, ça, c'est des moments assez... C'est des beaux moments qu'on passe loin de l'un de l'autre, mais il y a une présence commune vraiment très très fort.
Et ça fait supporter l'absence aussi.
Et ça fait supporter l'absence parce que moi encore je marche seul, mais je fais des rencontres. Le soir souvent je suis avec d'autres pèlerins. Que Aude est toute seule, surtout les enfants maintenant sont grands, sont partis, donc. C'est peut-être plus dur pour ma femme que
parce qu'elle reste.
Pour moi, parce qu'elle reste.
Oui, et voilà. Vous êtes dans une aventure, dans une démarche de pèlerinage. Oui. Je vous propose, Hervé de Lantivy, que nous marquions une pause musicale. Évidemment, nous allons écouter un chant de Compostelle, Ultreia Santiago, interprété par des guides et scouts d'Europe.
Sur le chemin des cathédrales, coiffé de coquilles au chapeau. Sur le dos, l'aumône dans ma panetière entre Seigneur et mon ego, foulant le pavé de naguère, je pars pour Santiago.
Isabelle Duché.
De retour dans cette émission Vivante Église avec Hervé de Lantivy, auteur de Une prothèse vers Compostelle. Il a parcouru ce long trajet, ce long pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray à Saint-Jacques-de-Compostelle avec une jambe de bois, puisque Hervé de Lantivy, vous vous êtes fait amputer de la jambe gauche. Nous allons parler de toutes ces rencontres que vous avez faites au cours de tout ce chemin. Vous craignez, vous nous l'avez dit tout à l'heure avant cette pause, vous craignez la monotonie, la solitude, et puis vous vous apercevez finalement qu'il n'y a pas une seule journée sans rencontre. Peu de pèlerins au début, mais puisque c'était en plein confinement, mais des personnes qui ont été croisées le long du chemin, que vous ont-elles apporté?
En fait, ces personnes-là sont curieuses de voir quelqu'un avec un sac à dos marcher, une coquille d'accrocher sur le sac, donc ça les interpelle. Et ils viennent naturellement, du moins ils venaient naturellement vers moi et ils posaient des questions où j'allais, ou alors il y en a bien sûr qui devinaient que j'allais à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et s'engageait une conversation. Voilà. Et ils me demandaient pourquoi je partais, donc j'expliquais que c'est pour ma foi, pour le vœu que j'ai fait. Et ce genre de discussion. En fait, ça me donnait, moi, une force pour continuer le cheminement. Et c'est grâce à ces rencontres qu'on arrive au but.
Oui, ça vous a donné une motivation à chaque fois.
Ah,
ouais,
oui.
Ouais, ouais. Ouais. Vous racontez dans votre ouvrage cette rencontre avec une certaine Nathalie qui vous raconte une part de sa vie. Elle se remet lentement d'un AVC et elle souhaite relier Clisson au Mont-Saint-Michel à pied. Et puis vous l'encouragez et vous lui dites finalement, le seul mot à garder, c'est vouloir. Ouais.
Et ça, c'est sorti de la bouche, je dirais, naturellement. Et c'est après que j'ai pensé à ce mot vouloir. J'ai dit, quand on veut quelque chose, il faut le vouloir, il faut persévérer dans cette chance qu'on a à pouvoir marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et quand on veut quelque chose, eh bien, il faut persévérer et aller à son but, quoi. Là-bas, l'exemple de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas facile tous les jours. Mais
oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute et de difficulté.
Exactement,
bien sûr.
Voilà.
Ouais. Il y a pourtant aussi des rencontres avec des amoureux du chemin de Compostelle, des personnes qui n'ont pas la même démarche spirituelle que vous. L'un d'eux, Anthony, vous lance « Hervé, tu es porteur d'espoir ». Alors, vous avez été surpris par cette phrase, puis petit à petit, elle résonne en vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle vous fait cheminer?
Eh bien, quand il m'a dit cette phrase, tu es porteur d'espoir, je me suis dit, mais la première chose que je me suis dit, est-ce qu'il le dit à tous les pèlerins, ou il le dit parce que je suis handicapé? Et puis, je n'avais pas cette prétention d'être porteur, je dirais, d'espoir. Ça, c'est. J'y avais vraiment pas du tout pensé à ces deux mots, porteur d'espoir. Oui. Et c'est que le lendemain que j'ai réfléchi à ces deux mots, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et pourquoi pas marcher pour les gens qui en ont besoin et qui ne peuvent pas.
Et ça s'est concrétisé comment, cette marche pour des gens qui ne peuvent pas? Vous aviez des intentions de prière?
Eh bien, tout simplement, les messages que je recevais. Parce que là, j'ai créé une page Facebook, c'est ma fille qui avait tout géré ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'est des milliers de personnes qui me suivaient et qui m'envoyaient des messages personnels. Et qui me demandaient de marcher pour eux.
Alors qu'ils ne marchaient pas.
Ou qui racontaient leur vie, leurs blessures, alors qu'ils ne marchaient pas.
Donc ça a donné un sens supplémentaire à votre pèlerinage.
Et là, je me suis dit, tu portes quelque chose et tu portes l'espoir. Et là, j'ai eu un amputé qui est un ami et qui est parti, lui, en 2022. Parce qu'il m'a suivi sur ma page Facebook, donc lui il est parti à vélo. Et cette année, il est parti de chez lui, de la Cruze, à Saint-Jean-Pied-de-Port, à pied.
Bah,
et grâce, je dirais, à ma démarche. Mm-hmm. Donc, ces deux mots, porteur d'espoir, je les ai bien assimilés. Et je me dis aujourd'hui, oui, c'est vrai, je peux être porteur de quelque chose, d'un espoir, d'une volonté de vouloir persévérer et surtout persévérer dans le handicap qu'on peut avoir et qui ne doit pas être un obstacle. Voilà.
Oui, donc avec une attention pour ne pas se à ne pas se décourager.
Ne pas se décourager, voilà, exactement.
Oui, oui. Vous témoignez dans votre livre de cette grande famille composée des anciens pèlerins de Compostelle. Une fraternité, une entraide, rien ne semble arrêter leur générosité. Il y a moult exemples dans votre ouvrage. De quelle manière cet esprit de service vous a-t-elle touché?
Eh bien, c'est en fait ces anciens, les anciens pèlerins qui donnent de leur temps.
Oui. Donc ils sont ils ont marché,
ils ont été accueillis aussi, et ils font la même chose. Et ça, c'est extraordinaire.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de gîtes où il y a des volontaires, on appelle ça les volontaires, donc d'anciens pèlerins, qui accueillent donc les marcheurs et qui font le repas du soir, le petit déjeuner. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Parce que nous, on arrive dans un gîte, on se met presque les pieds sous la table, et ils s'occupent de tout.
Oui.
Et ça, c'est extraordinaire.
Oui, ça doit être extrêmement touchant. Vous racontez cette phrase de Madi, tu es en train de booster un paquet de gens, c'est génial. C'est génial cette entraide entre anciens pèlerins toujours prêts à rendre service.
Ouais. Mais ça, c'est des genres de personnes qui sont porteurs d'espoir.
Oui, aussi, oui.
Bien sûr.
Oui.
Ça, c'est vraiment le... En fait, les pèlerins de Compostelle, c'est une grande famille. Hein. Tout le monde se connaît, ou presque. Il faut vraiment vivre cette expérience pour connaître la fraternité et l'amour qu'on peut avoir entre pèlerins. Parce que c'est tellement riche.
Oui.
C'est une richesse... qu'on ne peut pas soupçonner si on n'a pas fait cette expérience du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Oui, c'est ça. Et une fois que vous passez en Espagne, là, vous commencez à rencontrer beaucoup plus de pèlerins. Qu'est-ce que vous nous diriez de cette fraternité que vous vivez, donc plutôt davantage au quotidien?
Alors déjà, quand je suis arrivé en Espagne, c'était assez perturbant parce que j'avais marché seul. Et presque du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des pèlerins. Donc là, il va falloir que je me retrouve... De partager mon temps avec les pèlerins. Mais bon, je me suis très vite habitué. Et c'est en fait les rencontres qu'on peut avoir entre pèlerins, c'est des amitiés qui vont rester.
Donc vous les entretenez.
Et j'entretiens encore aujourd'hui. Oui. Oui, la preuve, j'ai marché les trois dernières semaines avec quatre jeunes. Et on s'appelle aujourd'hui régulièrement. Ils viennent à la maison tous les ans. J'ai un couple de Portugais qui sont venus à la maison. Donc c'est vraiment une amitié qui ne va pas durer le temps du pèlerinage.
Oui, ça n'est pas éphémère.
C'est pas éphémère.
Et le fait que vous soyez catholique et que les pèlerins que vous croisez ne le sont pas forcément, qu'est-ce qui se dit?
Alors après, ça, c'est des questions qui arrivent, je dirais, naturellement lors de... quand on parle. Voilà. Et ils posent des questions. Mais tout en se respectant, parce que la majorité des pèlerins qui marchent ne sont pas catholiques.
Mmh.
Ça, c'est...
Mais votre démarche les questionne quand même.
Ma démarche les questionne. Et là, j'ai eu encore un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Montpellier. J'ai passé une soirée avec un pèlerin qui n'est pas du tout pratiquant. Et l'année dernière, donc, il avait commencé le chemin d'Arles. Et c'est un dimanche, il était visité une église et il y avait l'évêque qui était présent. Donc, ils étaient quatre. Et du coup, ils sont restés... jusqu'à la fin de l'office. Et là, l'évêque leur a proposé de leur donner la bénédiction
du pèlerin.
Donc, ils sont approchés, ils ont eu la bénédiction. Et après, ils ont été invités à l'évêché parce qu'il y avait donc tout un déjeuner. Et ils ont passé l'après-midi avec tous les...
Les paroissiens
les
et l'évêque.
Les paroissiens et l'évêque. Et là, il m'a dit, c'est pas pour ça que je retourne à la messe tous les dimanches. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Ah oui.
Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un petit plus qu'il a reçu. Et c'est l'espoir un peu du chemin de Compostelle.
Oui, donc c'est pour ça qu'il faut des chrétiens sur le chemin de Saint-Jacques.
Il faut absolument des chrétiens sur le chemin parce que, vous voyez, il y a eu un sondage de fait en 2017. 45% des pèlerins partaient pour leur foi. Et il y a eu le même sondage fait en 2023, c'est à peine 10%.
Oula, mais il y a une grosse différence.
Donc le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est en train de se transformer en randonnée. Mmh. Et ça, c'est très, très embêtant. Et fut un temps dans les auberges, on proposait le lavement des pieds. Aujourd'hui, c'est des massages de pieds.
Ah oui.
La donnée n'est plus la même. Ouais. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut payer. Quoi. Donc, ça devient très, très commercial. Et il faut absolument que les catholiques fassent ce genre d'expérience de marcher sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour montrer qu'il y a encore des catholiques. Et bien sûr, il ne faut pas agresser les pèlerins qui sont à côté. Mais simplement, j'irais sortir sa croix qui est cachée sous son t-shirt, la mettre
c'est déjà un témoignage.
Bien en évidence, de prier en pleine nature ou de réciter son chapelet tout fort, même s'il y a des pèlerins qui passent devant. Mais au moins, ils auront le sentiment de se dire que finalement, il y a encore pas mal de catholiques sur le chemin.
Mmh. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Hervé de Lantivy, vous racontez dans votre ouvrage qu'après votre amputation de la jambe gauche, vous avez fait un burn-out et une tentative de suicide. Et ce pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle vous a donné l'occasion de revenir sur cette période douloureuse. Comment relisez-vous aujourd'hui cette épreuve ?
Alors déjà, l'épreuve du burn-out... Donc quand j'ai eu l'amputation, donc j'avais l'amputation, donc la rééducation à gérer, parce que c'est il a fallu que je reprenne
à marcher. Il faut apprendre à marcher, oui.
Ça c'est gérer comme un enfant. Mm-hmm. Et après il y a tous les stades de prothèses, etc. C'est très long. J'avais mon entreprise à gérer en même temps. Donc j'étais sur deux fronts. Et en fait je me sentais un homme fort, solide, n'ayant peur de rien.
Et un nouveau corps à apprivoiser aussi.
Et voilà, oui. Et en fait, je suis un être humain. Et un jour...
Vous avez craqué.
J'ai craqué mois d'octobre, un lundi matin, je me suis trouvé devant un mur infranchissable. Et je ne voulais surtout pas en parler à ma famille, à mes enfants, à ma femme.
Vous ne vouliez pas les inquiéter.
Voilà, je ne voulais pas les inquiéter. Et j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Donc là, ça a été vraiment la dégringolade pour moi et pour tous mes proches. Donc ça a été encore une épreuve à surmonter. Et donc je suis passé des stades d'hospitalisation. Ça a été très, très douloureux. Et
le chemin a été un lieu de rédemption.
Et voilà. Et c'est là où, en fait, mon vœu est revenu. Parce que j'avais fait ce vœu sur cette table d'opération, mais il était ressorti très rapidement. Et ce vœu est revenu, et là je me suis dit, là il faut que tu partes seul et, pour te refaire. Et en fait, c'est vraiment le chemin qui m'a sauvé. Où j'ai trouvé en fait la solution et effacé, je dirais, cette peur que j'avais de cet acte, je dirais, qualifiable que j'ai eu, quoi.
Pour terminer, vous dites à un moment que vous constatez sur le chemin que vous êtes libre. Est-ce que c'est cette liberté finalement que vous avez acquise au long de ce chemin?
Bien sûr.
Une libération.
C'est une libération parce que déjà, quand on marche sur ce genre de chemin, on est dans une bulle de contemplation. On ne pense plus à rien à côté. On ne pense plus à nos soucis quotidiens. Ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de marcher et d'arriver à Saint-Jacques de Compostelle, à ce but. Donc, toute autre forme de
contingence matérielle, finalement, n'occupe pas votre esprit.
Exactement. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment ça, la libération de soi. Attention, après, il y a le retour.
Voilà, parce que vous racontez déjà que l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle est difficile. Finalement, oui. On imagine tous ces pèlerins qui sont devant la cathédrale et puis qui se disent bah, « ça y est, le chemin est terminé voilà. ». Et comment vous avez réussi à reprendre une vie ordinaire après ce pèlerinage?
Ça a été assez difficile parce que quand je suis retourné chez moi, la vie de tous les jours
reprend.
Et reprend en fait très brutalement parce que... tout revient d'un coup.
Oui, c'est brutal.
C'est très brutal, comme l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour moi, était très, très brutale. Mais j'ai mis, 2-3 mois vraiment pour reprendre le cours de ma vie. Quoi.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est vraiment très compliqué à gérer. Ça, on m'avait prévenu. Mais je ne pensais pas que ça allait être si difficile que ça.
Donc maintenant, vous êtes prévenu pour la prochaine fois.
Voilà, maintenant, j'ai voilà.
Enfin, vous l'avez déjà expérimenté, en tout cas.
Voilà, et je pense que mon prochain, quand je vais revenir à la maison, je vais le voir autrement.
Oui,
oui.
Oui,
parce que, en plus, là, je pars 5 mois, donc c'est long, quand même.
Oui.
Donc je serais content de revenir chez moi, auprès de des miens, quand même.
Et
donc,
voilà, et de votre chère épouse,
voilà,
Aude.
Exactement.
Merci beaucoup, Hervé de Lantivy. Ce très bel ouvrage et beau récit, Une prothèse vers Compostelle, aux éditions Salvator, un livre qui a été préfacé par Laurent Cherizet.
Voilà.
Merci d'être passé par les studios de Radio Présence, et puis bonne
route. C'est moi qui vous remercie.